Il est 14h04, c'est CO2 Mon Amour, bien sûr, et laissez-moi vous présenter Denis Chessou, créateur de la première émission d'environnement en France et lauréat 2019 du prix Reporter d'Espoir de Radio France.
Ce qui me fait d'ailleurs aussi beaucoup de bien, parce que je suis quand même plutôt parti des anciens, vous voyez, Reporter d'Espoir. Non, moi je remercie beaucoup cette association, parce que d'abord ils font un boulot absolument formidable sur des initiatives positives en matière d'environnement, mais d'une manière plus générale sur le social. Voilà, donc...
Bravo en tout cas.
Oui, mais c'est évidemment que ça fait du bien, et ça se partage avec tout le monde, donc
et on
aussi
partage.
Avec vous qui nous écoutez. Allez, c'est parti.
CO2 Mon Amour, avec le WWF. Ensemble, agissons pour laisser une planète vivante. Rendez-vous sur www.fr.
Ravi de vous voir, Hubert. Vu le succès total de votre mission en Égypte et votre profonde connaissance des pays musulmans, on me charge de vous envoyer en Iran.
Ah, à la bonne heure. Ça sera l'occasion de reprendre l'avion.
CO2 Mon Amour.
Réduire l'usage de l'avion dans la vie de la plupart des gens, c'est très simple. Il suffit, quand on envisage ses prochaines vacances, de bannir l'avion comme possibilité de programmer un voyage. Arrêter l'avion, ça permet d'économiser des quantités énormes d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2, pour un effort qui est finalement très petit.
On sort des petits gestes du quotidien, on sort de trier ses déchets et de manger bio, et on rentre vraiment dans le dur.
Sur France Inter.
Ah oui, parce que donc l'aviation, ça va être un de nos sujets aujourd'hui. Nous aurons aussi d'ailleurs Nénette. Mais oui, cette femelle orang-outan de la ménagerie du Jardin des Plantes, eh bien on fêtera aussi ses 50 ans avec elle. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Cazot. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Oh là, du château, vous avez vu votre royauté en bas, les gueux qui verdissent. Quoi donc encore que cela? Ah bah oui, ils veulent mieux respirer, mieux se nourrir, se déplacer, avoir le boyau moins pesticidé, ne pas se battre pour l'eau demain, être moins stressé, ralentir le temps, vivre quoi, vivre pour autre chose que de remplir les poches de vos caisses ou des plus riches. Et au nom de quoi ils font ça? Bah ils ont voté, sire. Ils ont voté. Ah oui, c'est vrai, c'est une drôle d'invention que le vote. Bon, dites-leur que ma couronne est en or recyclé, que mon sceptre est en bois certifié, mais que mon glaive éco-responsable sera toujours tranché. C'est que notre belle vieillesse, vous savez, la Silver Economy. Bon, elle a pas forcément beaucoup envie de se bouger ses fesses ridées pour l'environnement. Ils ont plutôt envie de démonter la couche d'ozone en aéroplane. Mais notre jeunesse, elle, majesté, c'est notre avenir. Ils sont dans la rue, dans les urnes. Ils s'en vont démonter votre trône vite fait si vous faites juste semblant d'agir dans les discours. Garde, scellez mon cheval nourri à l'herbe naturelle. Je m'en vais les rencontrer, les nourrir de phrases, d'engagements non volontaires pour 2050. Et puis quoi? J'en ai attrapé quelques-uns de ces bons hommes verts que j'ai mis sur mes listes en bonne place dans ma cour. Non, je crois que vous n'avez pas tout pigé, votre majesté. Même si vous êtes bon et que vous avez conscience des problèmes, c'est incontestable. Mais là, il s'agit bien d'un changement de société qui déboule derrière le pont-levis. Hein? La mondialisation, les scellés de libre-échange, tout ça, c'est au cœur du saccage organisé. Ils veulent plus de réponses à 2100, nos jeunes. Ils veulent des actes un peu balèzes. Mais si on interdisait les jeunes, sauf votre respect, je crois que c'est pas du tout la bonne option. Hein. Non, je crois pas. Et des jeunes. Eh ben, des jeunes, on va en avoir plein. Où cela? Eh bien, à Vincennes, au bois de Vincennes. Oui, aussi à Paris, avec Wheel of Green. Bonjour Marie Sabot.
Bonjour Denis.
Alors Marie Sabot, vous êtes la directrice, vous êtes l'organisatrice de ce Wheel of Green. France Inter, on le sait, est donc partenaire. Donc c'est à la fois musique, art et écologie. Et alors moi j'ai envie de commencer un peu par votre histoire personnelle. Parce que vous Marie Sabot, vous avez une formation en droit, en communication. Après vous êtes allée dans le monde du spectacle. Mais quand vous étiez petite, eh ben vous étiez donc chez vous dans le Vaucluse. Et là il y avait une maman qui travaillait dans le social et un père dans le milieu du vin. Et tout ça peut-être a forgé aussi votre conscience écologique, racontez-nous.
Alors oui, c'est exactement que tout est né un petit peu là-bas. Effectivement, Ma mère était quelqu'un de très engagé. Elle n'est plus là pour voir un petit peu ce que l'on est en train de monter, mais je lui dédie un peu cette édition qui se présente sur les bons auspices. En fait, c'était elle a monté le centre social de la ville dans laquelle nous avons grandi. Ce centre social s'est agrandi de façon exponentielle puisque la grande usine de Marcoul, la grande usine nucléaire, est venue s'installer et a transformé notre petit village effectivement en un pôle d'attractivité colossal. Et évidemment, toutes les générations, les harkis en premier, les pieds noirs ensuite, et après les bottes people, et ensuite, toute l'Europe de l'Est est arrivée, les femmes, et ma mère effectivement était quelqu'un qui a organisé l'accueil, a organisé l'alphabétisation des femmes, a organisé un petit peu la façon de pouvoir mettre en place la connexion, la communication entre toutes ces populations qui sont arrivées très vite et ont dû s'intégrer. Donc voilà, moi j'ai navigué au milieu de toutes ces générations et c'était un vrai apprentissage. Et puis après, du côté agriculture, oui, mon père et toute ma famille sont une famille de vignerons. Donc à la fois du côté de mon grand-père, une agriculture qui était très organisée, raisonnée. Et puis après, les années 80, des changements de pratiques très différentes, l'arrivée des produits très divers pour traiter les vignes avec des très grands hectares, voire même des machines à vendanger. Et c'est une région qui a beaucoup souffert de cette
viticulture intensive, on veut dire.
Ouais. Et puis je dirais que ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont choisi la troisième voie, ceux qui ont choisi peut-être les plus petites exploitations et effectivement de retrouver vraiment un lien très fort et de pouvoir donner une histoire à leur vin, une histoire à leur terroir, une histoire à ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, tout ça questionne en fait.
Et une fois de plus, on a besoin d'histoires, on a besoin de récits, que ce soit donc localement comme vous le racontez aujourd'hui, parce que maintenant quand même pas mal de viticulteurs sont en train de basculer vers le moins chimique, voire vers le bio. Et alors maintenant, deuxième thème aussi avec vous, bien sûr, We Love Green. Bon, le côté musical, ça vous l'avez dit, on l'a redit sur France Inter, pas de souci, on pourra d'ailleurs écouter aussi demain soir avec Mishka Assayas les différentes retransmissions. Mais pour vous, donc des festivaliers, ça veut dire que ce sont des milliers de résidents qui sont momentanés, et donc vous êtes dit, ça suffit, c'est la fin des festivals qui marchent au diesel pour reproduire l'énergie, et vous aviez envie de changer le paysage de la production événementielle. Vous n'êtes pas la seule, mais vous êtes quand même sacrément en pointe. Racontez-nous ce que vous faites actuellement.
Et écoutez, justement, on était en train de la maire de Paris est venue faire une visite et on était très content qu'elle puisse s'intéresser techniquement à tout ce qu'on est en train de mettre en place et de pouvoir avoir la joie de lui dire ça y est, cette année la France est avec nous et on a pu rassembler des prestataires français à toutes les échelles au point de vue de l'énergie, alors qu'on importait ça depuis 2011 souvent en partie voire en totalité de l'étranger, différents pays. Donc cette année, on va tester deux groupes électrogènes à biocarburants différents, d'abord à huile alimentaire recyclée et à biocarburant huile de colza pour soutenir aussi l'agriculture française. On a aussi des groupes électrogènes à hydrogène, biomasse, c'est-à-dire c'est de l'eau qui est transformée en gaz et cette énergie qui a transformé l'eau vient de la méthanisation, vient d'un gaz de déchets. Donc c'est vraiment l'hydrogène vert, c'est une solution intéressante pour le futur. Et puis aussi on a testé une ferme solaire, c'est-à-dire 5 solutions solaires différentes avec des bâches photovoltaïques toutes différentes. Donc on va pouvoir avoir un vrai retour de qu'est-ce qui est efficace, un peu moins, un peu plus, etc. Et nous, vraiment, replacer le curseur de qu'est-ce qu'on a besoin sur le festival, parce que après, ça peut servir pour les grands événements, pour les autres festivals, pour les JO qui vont nous visiter demain.
C'est un laboratoire. C'est un laboratoire.
C'est un laboratoire. Ah ouais, voilà. Tant sur l'énergie, tant aussi sur la nourriture.
Alors l'alimentation, parlons-en, parce que j'imagine bien que les tomates bio élevées sous serre chauffées au fioul du côté de la Bretagne, c'est pas forcément votre cam, mais pour essayer d'être un peu cohérent, même si elles sont bio, bah oui d'accord, mais enfin ça, on a eu donc toute cette histoire, cette polémique cette semaine. 50 concerts, 50 restaurants engagés, j'ai vu qu'il y avait aussi 86 points d'eau donc de Haut-de-Paris, mais oui. Cette nourriture, c'est quoi? C'est des producteurs, vous essayez de prendre le compas et de pas dépasser 180 km autour de
c'est
Paris
ça. Exactement. On a essayé de leur donner une thématique qui était Paris nous nourrit. On a essayé de le mettre au cœur de l'agriculture urbaine. Évidemment, on est au début, on va pas se le cacher. Mais par contre, les mettre en avant, c'est aussi refaire une carte, remettre sur un compas, comme vous le dites parfaitement, le fait que quand on se met à 180 km de Paris, on a fait cette carte de producteur qu'on a fait en commun avec les restaurateurs qui ont été choisis. On a mis beaucoup d'adresses qui nous semblaient vraiment exigeantes et intéressantes. Ils en ont mis d'autres. Et au milieu de tout ça, on a pu faire un maillage intéressant et on a pu s'engager auprès de ces producteurs pour pouvoir alimenter 80 000 personnes dans le festival et faire des menus qui soient de saison. Et qui soit adapté à qu'est-ce qu'on mange ici et mettre aussi un petit peu de terroir. Et le terroir, c'est pas seulement des choses ancestrales, mais aussi des choses nouvelles qui sont qui fonctionnent très bien dans ce terroir parisien.
Déchets qui sont triés, qui sont compostés sur place. Bon, zéro plastique, hein.
Alors là, voilà, ça, on est allé au niveau plastique cette année jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on a dit aux artistes dès le mois de janvier, voilà notre charte. Cette année, vos riders, vos demandes dans les loges, on va vous proposer des choses un petit peu différentes. Donc, on n'est pas dans l'interdiction, mais dans la proposition. On est en train de vous dire, voilà nous nos prestataires, voilà les gens avec qui on travaille, et notamment avec Haute Paris. Et donc, évidemment, vous aurez un point d'eau à la sortie de votre loge, frais et pétillant, qui arrive de l'eau du robinet. Et vous aurez des carafes, vous aurez des gourdes. Et ça va très bien se passer, vous allez voir. C'est
oui,
très simple,
faut,
en fait.
Faut les border un peu, hein, quand même, parce qu'il y en a qui sont quand même gentiment écolo, puis
c'est
d'autres
bon sens,
qui s'en foutent un peu aussi.
C'est du bon sens, donc... hein, c'était pas si loin tout ça. Hein.
Voilà, absolument. Bon, 80 000 arbres plantés, ça, on va dire que c'est pour la compensation, mais ça se fait quand même en Ouganda, avec l'Institut Jane Goodall.
Avec Jane Goodall, oui. Voilà, qui nous a fait un petit message pour nous dire merci, pour nous dire que les plantations avaient démarré et que ça allait aider, effectivement, dans ces réserves naturelles. Donc ça, on est content de pouvoir effectivement lui donner un financement important pour qu'elle puisse, elle, continuer à travailler, parce qu'elle le fait depuis, je sais pas, 50 ans, bien avant tout le monde. Donc ça, c'est un acte que fait le festival. Mais après, on a la compensation aussi des artistes et des festivaliers. On a lancé une petite calculette carbone pour dire d'où tu viens, comment tu viens, regarde. Et là, tu peux compenser ton transport.
Oui.
Et là, on fait avec le projet Hexagone. Hexagone, c'est un projet de pur projet où on peut aider les exploitants français, encore une fois, on parle de Île-de-France, à reboiser leur exploitation qui ont parfois plus d'arbres du tout.
Non, ce qui est intéressant, c'est que vous touchez entre 70 000 et 90 000 personnes. Quand on avait fait l'émission l'année dernière, je crois qu'il y avait, je sais plus combien il y avait déjà 80 000, 90 000, je ne sais plus combien vous aviez de...
Eh bien, il y aura 10 000 personnes depuis cette année. Oui.
Eh ben voilà, hop là, 10% de plus. Troisième point aussi avec vous, qu'est-ce que vous attendez des politiques? Ça, c'est intéressant parce que bon, make the planet great again, parfait, dixit notre président, quid de la suite, etc. Je ne dis pas que les choses ne se font pas, n'avance pas, mais voilà, la société civile qui pousse énormément, nos jeunes qui poussent, qui veulent, voilà. Et puis, derrière l'État qui, en même temps, a le pouvoir de coercition sur le secteur privé et l'adaptation des infrastructures.
Ben, je crois que vous avez tout dit, en fait.
Ah, zut.
Là, on est en train de leur dire, effectivement, la jeunesse, elle est là. Ici, ce week-end, on va retrouver une population qui est très, très, très mélangée, qui parfois ne se croise pas tout le temps.
Bien sûr.
Et qui, là, entre les fans de Booba et ceux de Tame Impala et ceux de Ricardo Villalobos et ceux de Peggy Gou, on parle d'artistes qui viennent de quatre coins du monde, ils vont se rencontrer, ils vont vivre un moment, ils vont échanger, ils vont aller voir les scènes de conférences, ils vont aller voir l'espace des entreprises, des ONG. Bon, ben, ils vont se dire des trucs, c'est pas possible, ils vont pouvoir il va y avoir des histoires d'amour, il va y avoir des histoires de copains, bref, ils vont ressortir, on espère, pas forcément les mêmes, quoi. Et cette jeunesse-là, elle dit des choses en ce moment très fort, et elle peut le dire aussi encore plus fort. Donc je pense que ce mouvement-là, je pense que tout le monde l'a vu, la secrétaire d'État est passée hier pendant le montage, on a parlé technique, principalement, on lui a fait voir qu'effectivement, les industriels français étaient prêts à y aller, mais qu'il a fallu qu'on demande des autorisations pour utiliser ces biocarburants qui ne sont pas encore en vente libre. Donc il y a un petit effort à faire aussi à ce niveau-là.
Oui.
Et que donc, je pense qu'il est temps effectivement de faciliter tout cela, de faire en sorte que ce soit plus simple pour travailler dans ce sens-là et de pouvoir aussi donner effectivement, comme vous dites, certaines directives, certaines chartes aussi à nos grands industriels pour pouvoir accompagner ce que souhaite la société civile et qu'il exprime de façon assez claire.
La voie juridique, de toute façon, est indispensable dans cette affaire.
Elle Elle arrive,
mais absolument, elle arrive. Et puis, les innovations locales qui font quand même rêver les jeunes, quoi. C'est là aussi.
Je crois qu'en fait, voilà, moi j'ai 3 enfants, j'ai une fille qui a 20 ans. Pour imaginer le futur pour eux, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Est-ce qu'ils vont faire des enfants? Est-ce qu'ils vont pas faire des enfants? Quel métier ils vont trouver? C'est les discussions qu'ils ont au quotidien, quoi, tous. Donc, je pense que ce qu'on a toujours envie d'amener ici, et ce que chaque personne, nous on n'est pas une ONG, on est des facilitateurs de connexion entre les gens. C'est ça notre métier, on n'est quand même que des gens du spectacle. Mais on est là pour essayer que ça se parle et pour que ce fameux petit grain d'espoir et se dire il y a peut-être quand même, c'est pas complètement foutu et que eux ne soient pas aquabonistes comme disent les mecs de l'effondrement, se dire qu'il y a encore on va leur passer le relais et je pense qu'ils vont aller un cran plus loin, quoi, ou un cran plus fort. Ça, c'est comment ça va se passer.
Eh ben, écoutez, un grand merci, Marie Sabot. On est très heureux d'être partenaire avec France Inter.
Oui, on s'est beaucoup croisés.
C'est ça. Le soleil est avec vous. C'est parfait. Oui. Il est gratos, hein. Donc,
c'est notre tête d'affiche, là, maintenant.
Et
là.
Voilà, c'est la tête d'affiche. Donc, ça se passe très bien. Et puis, nous, on va essayer de changer de sujet. Bien que je vous cache pas que je suis un peu embêté, parce que là, je suis en direct. J'attends Gérard Felzer, qui est un ancien commandant de bord de chez Air France. Et on voulait
mais
parler.
Oui, on connaît bien Gérard. Péniche extraordinaire. C'est j'adore
ça.
Sa péniche.
Et c'est génial tout plein. Voilà, on en a parlé, mais il est pas là. Il doit venir en direct. Vous voyez, donc, un peu à poil, mais enfin, on va se débrouiller. Je sais pas très bien comment. Mais ça, ce sont les joies du direct.
Les joies du direct.
On lui aurait mis du SMS, tout ça. Cher Gérard, viens, etc. On t'attend. Il a dû manger le truc. Merci. On vous souhaite plein de succès, en tout cas, Marie Sabot. Et puis, à très bientôt.
Denis.
Au revoir.
Voilà, continuez. Vous êtes parfait. À bientôt.
Petit côté M, mais pas du tout, hein. C'est Malik Djoudi, donc belle sueur, et qui sera donc au Bois de Vincennes, donc pour Will of Green, lui aussi, ce week-end. Et c'est un de nos artistes France Inter choisis par Thierry Dupin.
Vous avez une campagne?
CO2, mon amour?
Oui, jeune homme.
Avec une maison dessus? Oui, jeune homme.
Je parie que cette maison est en mauvais état.
Oui, jeune homme.
Alors écoutez, votre campagne, moi je vous la remets à neuf.
Gérard du neuf.
Denis Chessoux.
Non mais je veux dire que je vous la remets en état, tout.
Sur France Inter.
Tout.
Alors nous allons bousculer tranquillement, comme on appelle cela, notre conducteur. C'est-à-dire que nous avons eu Willow Green, et puis je vous ai dit qu'il y aurait Nénette à la fin de l'émission. Eh ben elle va être maintenant Nénette, parce que avec un peu de peau, Gérard Felzer va quand même se pointer. Et voilà, je pense qu'on touche du bois, oui. Comment il a notre bois d'ailleurs des studios, oui. C'est un peu laminé tout ça. Alors, Nénette, 50 ans, qui est née en 1969, mais auparavant, écoutez ce message 01 56 40 40 35.
Bonjour, les 31 mai et 1er juin, nous organisons la troisième fête de la forêt. Alors quand je dis nous, c'est l'équipe de bénévoles de l'association Clin d'œil. Ça se passe à Brassy, petit village de la Nièvre, dans le parc naturel régional du Morvan, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors le défi que Clin d'œil souhaite relever à l'occasion de cette fête de la forêt, c'est d'associer les deux, la nature et la culture, au travers de deux jours de festivités. On propose d'un côté des sorties nature, des conférences, projections de films, expositions sur la biodiversité de la forêt bourguignonne, et puis des animations culturelles, des concerts alliant musique traditionnelle et électronique, un spectacle de marionnettes. Le but, c'est vraiment de faire avec et dans la forêt pour la découvrir ou la redécouvrir, avec, pour le clin d'œil, des acteurs présents, plus militants, plus engagés pour la défense de l'environnement et de la forêt, comme Adrien Morvan, et le groupement forestier du chat sauvage.
Voilà, donc c'est une très très belle forêt, donc à la fois de feuillus au départ, puis aussi donc de résineux, donc cette forêt du Morvan. Il y a eu aussi vraiment de jolies coupes à blanc, donc d'où les associations comme Adrien Morvan, donc qui se sont aussi mobilisées. Et en même temps, une forêt elle a besoin aussi d'être cueillie, comme on dit. Donc voilà, donc ça va être de la pédagogie qui va s'opérer. Alors de la forêt à celle de Bornéo. Oui, c'est pas la même, hein, c'est pas la même. On a des orang-outans. Et donc on va fêter ces 50 ans de cette fameuse Nénette qui était née, je vous le disais, en 69. Elle arrive en 72 à la ménagerie du Jardin des Plantes, alors en avion, en bateau ou à pied, que sais-je. Et donc, cette femelle orang-outan, c'est l'occasion de rendre visite à elle et à ses copains, avec celle qui fut la directrice de la ménagerie du Jardin des Plantes pendant des années et qui est vétérinaire, c'est Marie-Claude Bomsel. Ah, alors là, on se retrouve avec beaucoup de plaisir avec Marie-Claude Bomsel.
Et mes copains.
Et vos
et
copains
mes amours.
Orang-outan. Avec, j'imagine, ce très beau mâle.
Mon amour, c'est tout beau. Voilà. Notre mâle, vous avez vu d'ailleurs qu'il partage cet amour. Il est arrivé dès qu'il m'a vu. Bon, allons, soyons honnêtes, il me partage avec d'autres femmes, mais souvent, homme varie, bien folle qui s'enfuit. Mais on va dire je suis sa préférée parce que nous vieillissons ensemble. Quoique, nous vieillissons plutôt ensemble avec sa mère, Nénette, que vous voyez ici. On voit les orang-outans, les chimpanzés, les gorilles vieillir jusqu'à des âges de 50, 60 ans. On voit les chimpanzés se ménoposer. Bon, les orang-outans, c'est moins facile à voir parce qu'ils n'ont pas ce fessier qui permet de juger exactement de l'état physiologique. On les voit arriver avec des arthroses, avec des problèmes de dents. Hein, mon Peppert, on n'est pas encore là, pardon, c'est mon tout beau, 15 ans, hein. Il a une nouvelle femelle de 19 ans, mais enfin, lui, il n'a pas encore ses soucis. Avec des infections urinaires, il a fallu opérer Nénette. Vous pensez, je ne l'ai pas fait, hein, ce sont mes confrères qui l'ont fait. J'ai pleuré tout le temps comme une maman à côté d'elle. Ce sont des individus à part entière, de très proches cousins de nous, le orang-outan un peu moins, mais chimpanzé et gorille évidemment. Il y a plus de différence entre le chimpanzé et le gorille au point de vue ADN qu'entre le chimpanzé et l'homme. Donc vous voyez vraiment la proximité, les hominoïdes, si on met les gibbons avec, famille des hominidés, nos copains. Et deux siècles après Darwin, attention à ne pas sombrer dans un créationnisme américain,
surtout pas.
Ah, il est évident, nous ne descendons pas du singe, mais nous en sommes de très très proches cousins. D'ailleurs, regardez, vous voyez tout beau. Regardez, s'il n'y a pas un... Voilà, on fait un bibi, mon tout beau. Voyez, regardez ce bibi qui est exquis. Voilà, oh là là, c'est net.
Tout il beau. A quand même, ça c'est évidemment, son grand collier de graisse.
Oui, hein, oui, ça, c'est un petit peu excessif même chez nous, mais qu'est-ce que vous voulez. Et si on mange bien, en parc zoologique, il faut bien avoir des avantages. Quoique, regardez ma vieille Nénette, qui fait, elle, vraiment vieille. qui est un petit peu chauve sur le dessus et tout. Elle va chercher, elle a appris, autrefois on donnait des plats d'un seul coup, maintenant on leur donne à manger plusieurs fois par jour. Ils doivent se déplacer, ils doivent chercher, on en met en haut, en bas, c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement de milieu. On sert plusieurs fois par jour des choses colorées, on les occupe en continu de façon à ce qu'ils ne s'ennuient pas trop.
Cher Marie-Claude, là on voit tout le travail des bras. Lorsque l'on parle de l'orang-outan, on voit des pattes qui sont courtes, mais avant tout, rappelons-le, c'est donc un animal qui se déplace avec ses bras.
Avec ses bras, en brachiation costaud, comme c'est pas permis, vous savez, qui vont d'une branche à l'autre, ils vont tester la branche pour passer de l'un à l'autre, et ils ont cette force dans les bras. Au point que, hein, ma nénette, quand tu étais jeune, bien ridé, hein, nous avons vieilli parallèlement, mais elle plus que moi, à mon avis. Merci, bon, merci. Oui. Mais du temps de notre jeunesse, je me parais de 1000, j'y croyais encore, de 1000 colliers et je rentrais avec elle, ce que nous ne faisons plus. Vous savez, maintenant, on est dans un monde sécuritaire. Mais je suis rentrée avec elle et elle avait voulu voir absolument ce que j'avais comme colifiché autour du cou. Eh bien, elle m'a attrapée par la blouse, soulevée d'un bras, arraché ce collier, jeté la mère Bomsel, pas le collier. Hein. Et bon, moi, je suis tombée comme j'ai pu, je me suis relevée hurlant de terreur, et surtout parce qu'elle avait gardé le collier qui était une grosse boule, et elle se l'est mis comme ça, magnifique. Évidemment, il est tombé par terre, parce que comme il était arraché, elle n'a pas compris, les boules sont tombées, elle a commencé à les avaler, il a fallu le récupérer, je me suis fait engueuler par les soigneurs, horrible. Tout ça pour vous dire qu'elle m'avait soulevée d'un bras. Donc la force qu'ont ces animaux, c'est assez étonnant. Entrez pendant que vous êtes là, parce que ça les vexe, des Anglaises qui sont venues ici prendre le thé. Oui. Parce qu'ici, on prend le thé chez les orang-outans. Tous les matins, c'est une tradition au muséum. Ça permet de leur donner, si on a besoin, comme c'est amer, un quelconque médicament. Donc les deux Anglaises, Théodora, 19 ans, Tamou, exactement l'âge de notre Linga qui est partie, mais elle élève son petit. Elle est donc venue en retour, c'est le système des parcs zoologiques, pour être intégrée au groupe, puisque Toubo n'avait pas assez d'enfants, et il a fallu donc que ma vieille nénette se réhabitue à une nouvelle belle-fille.
Alors évidemment, on n'a pas des branchages, mais ces animaux-là vivent quand même dans les arbres et se fabriquent des nids en permanence. Donc alors, ceux-là, comment ils font?
Ceux-ci font des nids grâce aux frisons. Vous voyez, il y a beaucoup de cordages pour monter. Nous n'avons à la ménagerie, hélas, pas beaucoup de place, pas tellement de moyens. Et on a fait le choix des orang-outans parce qu'ils, ce sont des arboricoles, ils vivent à plus de 20 mètres du sol. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et avec ces cordages, ça leur permet de vraiment évoluer en hauteur. Et en bas ou en haut sur la plateforme, il y a du frison. Et ce frison, ils le font un nid. Vous savez que les orang-outans, tous les grands singes font un nid tous les soirs, ils en changent, et eux de même. C'est d'ailleurs très drôle parce qu'il nous est arrivé d'avoir un animal qui venait d'Allemagne, qui n'avait jamais vu faire un nid. Bonjour tout beau, le voilà revenu, il est vexé, mais finalement, regardez, il m'amène même à manger pour essayer d'avoir les faveurs. Et donc, on s'est aperçu que même n'ayant jamais vu quiconque faire un nid, il faisait une ébauche de nid. Et Nénette, qui était dans un bon jour, est venue l'aider à montrer un peu comment on faisait un nid en se mettant à côté. Et il le fabrique en changeant tous les jours, tous les soirs. Chacun dort évidemment seul, la mère et le petit exceptionnellement, mais il n'y a pas papa, maman dans le lit conjugal, on ne dort pas ensemble chez les grands singes, chacun fait son nid chaque jour, et comme on fait son nid, on se couche solitaire. Bonjour mon tout beau, excusez-moi quand même, là je crois que je vais vous quitter bientôt parce que je vois qu'il m'offre là, il est en train de m'éplucher avec amour et tendresse, un rien de courgette.
Il y a une attente là.
Oui, il y a une attente, il y a une attente, je crains de devoir vous quitter assez vite parce que nous allons partager une courgette.
Juste un point important aussi, Marie-Claude, Bornéo-Sumatra. C'est-à-dire que là, ces animaux-là n'aiment pas du tout l'huile de palme, on peut s'en douter, parce que le milieu naturel est quand même salement menacé. Quoi.
Plus que salement menacé, c'est le grand singe le plus menacé au monde, alors qu'il n'avait pas forcément raison de l'être. il était plus logique que le gorille très introverti et autres le soit. Et en l'occurrence, c'est le plus menacé à cause des plantations d'huile de palme. Rappelons-le, palmitate pour faire des savons, des cosmétiques, des pizzas et autres genres de choses. Ça s'étend de plus en plus, on en voit partout. Et franchement, même si je suis tellement amoureuse de mon Togo, il serait tellement mieux en Indonésie que dans les parcs zoologiques. On en a 1 000 000 en zoo, 300 en Europe, mais le problème n'est pas de les conserver en zoo. C'est simple, mais c'est pas leur devenir. Leur devenir, c'est là-bas. Il faut arrêter ces plantations de palmiers.
Bon, un grand merci Marie-Claude Bonsel, et puis à très bientôt. Au revoir Marie-Claude.
À bientôt, au revoir.
Voilà, c'était notre page nature, notre page parisienne reportage, donc aussi pour fêter symboliquement donc les 50 ans de cette fameuse nénette. On va passer donc à l'aviation, mais auparavant au 01 56 40 40 35.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hilaire Rochette, membre de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques Baume d'Aubie en Sud-Ardèche. Je vous invite à la fête de la pêche et de la rivière qui aura lieu le 1er juin sur les berges de la Baume proche du village de Joyeuse. Cette manifestation est notre réponse pour créer un terreau favorable à la préservation de cette rivière d'exception, labellisée rivière sauvage. En effet, ces dernières années, une gestion accablante des pouvoirs publics met en péril la biodiversité. Les multiples pressions que subit la Baume, étiage sévère, forte fréquentation estivale, développement des activités aquatiques, prélèvement en eau potable, non-respect de la loi sur l'eau vis-à-vis de la continuité écologique, la politique politicienne ou les élus locaux peuvent aller jusqu'à inaugurer des constructions illégales asséchant la rivière sur des zones peuplées d'espèces menacées. Tout cela nous pousse à nous mobiliser avant qu'il ne soit trop tard. Nous vous proposons de venir partager notre regard amoureux de la rivière et une autre image de la pêche dans une ambiance conviviale, familiale, pédagogique et éducative. Pour mieux comprendre ce milieu, nous vous proposons des ateliers, des stands d'animation et randonnées à thème, une projection de films en plein air, une conférence tenue par Marc Petitjean, grand nom de la pêche à la mouche, et un concert reggae pour finir en beauté. Pour tout contact, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement Fête de la pêche et de la rivière 2019.
Voilà, donc pour cette pêche. Alors je vous signale que la semaine prochaine, vous aurez un reportage sur la Loue Houeux, donc dans le département du Doubs, en Franche-Comté, où j'ai rencontré Gustave Courbet. Voilà, j'ai une interview de lui exclusive, donc on retrouvera donc cet homme. Et tenez, on va repartir dans le Cantal aussi avec ce message.
Bonjour Denis, bonjour à tous, c'est Michel depuis les Hauts Plateaux Auvergnats. Lors de ta balade dans le magnifique département du Cantal, tu auras sans doute compris, Denis, pourquoi nous, les Cantalous, sommes si attachés à notre volcan verdoyant. Malheureusement, ici comme ailleurs, la nature fait les frais de la politique insensée du toujours plus vite. Ainsi, entre Murat et Saint-Flour, le projet de contournement du petit village d'Ussel prévoit d'artificialiser une 20aine d'hectares de terres arables et de mettre à mal tranquillement un site Natura 2000 de toute beauté, abritant une longue liste d'espèces pourtant protégées. Les mairies concernées contestent ce projet infondé. Mais que tout le monde se rassure, pour les concepteurs de ce désastre annoncé, ce saccage permettra tout de même de faire gagner 1 à 2 petites minutes sur un trajet de plus d'une heure. Coût de la plaisanterie, 5 millions d'euros, la minute. Un collectif lanceur d'alerte a vu le jour pour tenter de faire entendre raison aux décideurs. Une pétition circule et des personnalités comme Fabrice Nicolino ou Corinne Morel-Darleux, émues par l'absurdité de la situation, nous ont apporté leur soutien. Mais, amis auditeurs, nous avons besoin de vous, de votre aide, de vos conseils, de vos signatures et de vos encouragements. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site 5millionslaminute.fr. Merci Denis, merci à tous et très belle journée à vous.
En termes d'efficacité communicante, c'est plutôt pas mal. Il y a peut-être aussi quand même des problèmes de sécurité aussi, donc à regarder. Alors, eh bien oui, on va parler de l'aviation parce que figurez-vous que c'est le week-end de l'Ascension, vous le savez. Donc montons au ciel, mais avec des réacteurs. Et puis je sais aussi que vous adorez la publicité pour les transports aériens sur France Inter. Donc c'est deux raisons de faire le point. Alors tout de suite, on va dire qu'on va rendre hommage quand même aussi à Clément Ader, aux frères Wright, à Louis Blériot, à la Técoère, Mermoz, Guillaumet, Saint-Ex, j'en passe, parce que le ciel, l'aviation ont émancipé l'homme, a réuni des nations, a mêlé des cultures, et a été un territoire de rêve. Bon, avec le porte-container, c'est aussi un outil de mondialisation. Seulement, le problème, c'est évidemment l'expansion de tout ça. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux, vous regardez la courbe d'un avion qui décolle, et vous avez aussi la courbe du trafic aérien, pareil, depuis 40 ans. Ça, c'est une jolie image qui a été signée Vincent Grimaud, qui a signé donc des articles dans Alternative économique de juin avec ce dossier « Faut-il arrêter de prendre l'avion ?» Lorelai Limousin, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on attend Gérard Felzer, hein, que vous connaissez également. Vous êtes la responsable politique transport chez Action Climat. Donc, vous faites tout un travail sur de nombreuses formes de transport. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu ce mouvement qui était né en Suède, qui s'appelle Honte de prendre l'avion. Et Alexandre de Jougnac, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, donc là, prend un petit peu l'ampleur quand même du phénomène des jeunes générations. Il sort les ailerons et il dit « Attention, risque de réputation ». Alors, au niveau mondial, les émissions de CO2 ont plus que doublé en 20 ans. On a un trafic international qui représente 60% des émissions de CO2, un trafic domestique de 40%. Qu'est-ce que l'on peut dire, Lorelai Limousin, parce que donc vous êtes monté là-dessus et peut-être vous avez envie de démonter certains mythes qui existent lorsque l'on dit, par exemple, que l'aviation est un contributeur mineur de l'effet de serre.
Bah, tout à fait, parce que ça fait plusieurs années, enfin en fait très longtemps, que le secteur aérien, que ce soit l'industrie aéronautique ou les compagnies aériennes, minorent vraiment l'impact du transport aérien sur le changement climatique. En général, on entend le chiffre de 2% des émissions globales de gaz à effet de serre qui seraient dues au transport aérien. Alors déjà, si on se reporte à ce 2%, c'est 2% des émissions de CO2, et c'est considérable, parce que c'est autant qu'un pays comme l'Allemagne, ce qui en ferait donc le transport aérien le 7e plus gros émetteur de CO2 au monde. Donc c'est énorme. Et surtout, ce n'est que le CO2. Or, le transport aérien a d'autres impacts sur le climat, qui sont notamment les vapeurs d'eau qui créent en fait des traînées de condensation qui ont pour effet de réchauffer l'atmosphère et la planète.
On rappelle dire que les vapeurs d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre, hein, aussi, d'une manière générale.
Voilà, exactement. Et les oxydes d'azote qui créent de l'ozone, qui réchauffe aussi l'atmosphère. Et en fait, si on regarde au global, l'impact, le pouvoir réchauffant mondial est plutôt de l'ordre de 5%. Donc quand on compare la hausse des émissions du secteur aérien qui est disproportionnée par rapport à celle des autres secteurs, et qu'on sait qu'en plus tous les impacts ne sont pas pris en considération, c'est vraiment malvenu de la part des acteurs du secteur de minorer leurs impacts. Et en fait, de s'opposer aussi de manière systématique aux politiques climatiques.
Alors,
on a vu qu'au niveau
Oui, je vous en prie.
Non, mais que ce soit au niveau international, au niveau européen, au niveau national, à chaque fois qu'il y a des propositions sur la table pour faire contribuer le secteur aérien aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ils s'y opposent. Donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif de réduction contraignant sur les émissions du transport aérien. Il n'y a pas non plus de taxation, et je pense que ce sujet, maintenant, il est sur le devant de la scène. Hein. Le transport aérien est quand même largement avantagé par rapport à d'autres moyens de transport, et notamment des moyens de transport beaucoup moins polluants, parce que, d'une part, le kérosène n'est pas taxé, alors que c'est évidemment un carburant d'origine fossile.
Alors, on pourrait le faire, on va dire, au niveau national. Hein. On ne peut pas forcément le faire au niveau international, parce qu'il y a cette convention de 1944, donc de Chicago, qui existe. Et donc là, ce n'est pas le cas. Mais au niveau, on va dire, vol intérieur, ce serait possible.
Alors, en réalité, il y a aussi quelques idées reçues sur la convention internationale de Chicago. Elle est utilisée comme un prétexte pour ne pas taxer le kérosène. Donc, comme vous l'avez dit, c'est possible du jour au lendemain sur les vols intérieurs au niveau national. Et rien que les vols intérieurs, en France, ça représente un manque à gagner de l'ordre de 600 millions d'euros pour l'État français en termes de budget. Deuxième chose, la Convention internationale de Chicago, en réalité, elle empêche la taxation du kérosène qui est déjà dans un avion. Mais elle n'empêche pas la taxation du kérosène de manière globale. C'est des accords bilatéraux de service entre les États qui ont été scellés depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui pour empêcher cette taxation. Et en fait, si la France décidait de non seulement taxer le kérosène au niveau intérieur, mais aussi sur des vols internationaux ou intra-européens avec les pays qui sont d'accord, c'est possible. Et c'est pour ça que nous, évidemment, on souhaite que le kérosène soit taxé à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, mais on souhaite surtout qu'en fait les États, dont la France, n'attendent pas pour agir, mais mettent en place toutes les mesures qu'il est possible de mettre en place aujourd'hui, parce que vous avez souligné la hausse du trafic, la hausse des émissions de gaz à effet de serre, la consommation de kérosène continue d'augmenter même en 2018 en France, parce qu'il y a énormément de subventions qui l'encouragent. Et donc on appelle vraiment le gouvernement et d'ailleurs les parlementaires qui sont en fait en train d'examiner une loi sur les mobilités en France à agir sans plus attendre.
On est dans cette loi mobilité, donc justement actuellement. Lauréa Limousin, vous restez avec nous tranquillement. Gérard Felser vient de rentrer dans le studio. On va s'offrir qui ? Là, on l'a illustré, mais enfin, si vous voulez, un homme comme Lindbergh, on va quand même pas y échapper. Surtout que c'est quand même celui qui ouvre l'Atlantique Nord à l'aviation sur France Inter.
Astro, jet, whisper, jet, clipper, jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. La Sophie qui venait de partir, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je suis une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai pu. Je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Allez là, que j'avais ramassé. Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Grand tube ça, donc qui a 51 ans pour être tout à fait précis.
Quelqu'un peut-il faire atterrir cet avion ?
CO2, mon amour ?
Non, enfin, je ne crois pas.
Denis Chessoux.
Mesdames et messieurs, c'est votre hôtesse qui vous parle. Y aurait-il une personne à bord qui aurait son brevet de pilote ?
Sur France Inter.
Et il est arrivé. Bonjour Gérard Felser.
Bonjour.
Merci à vous quand même d'être là. Oui, vous y êtes arrivé, vous êtes revenu à bicyclette, enfin bref. Ancien commandant de bord chez Air France, pilote pour Aviation sans frontières. Un homme qui a voulu vivre tous ses rêves et vous le racontez très bien dans Si tu peux, vas-y aux éditions XO, journal d'un pilote aventurier, donc évidemment amoureux de l'aviation, engagé depuis très longtemps dans l'environnement aussi auprès de Nicolas Hulot, l'association Passion Transport et sur France Info, on peut vous écouter entre autres avec Transportez-moi vers le futur. futur. Alors, on a entendu donc Lorelai Limousin. Comment on fait, c'est-à-dire aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement en permettant l'augmentation du trafic aérien? Je rappelle qu'aujourd'hui, on est à peu près à 4 milliards 2 en 2018 de passagers. On a une estimation, alors on ne sait pas ce que ça peut donner, mais enfin, de 8 milliards vers 2035-2036. Comment on peut concilier tout ça? Est-ce qu'on peut y arriver?
Ah, c'est difficile. D'abord, je me présente 20 000 heures de vol, 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul, j'ai fait le calcul. Donc, c'est comme ça qu'on devient écolo. Alors, on fait ce qu'on peut. Ouais. C'est vrai. Donc, et il est vrai que cette détaxation du kérosène est peut-être une anomalie aujourd'hui, mais en tous les cas, on fait avec. L'essentiel, c'est que on a horreur de l'injustice. Alors évidemment, les gilets jaunes disaient le kéro et nous derrière nos camions, on nous taxe. C'est vrai, sauf qu'on est dans un milieu concurrentiel et hyper concurrentiel sur le transport aérien. Ça veut dire que une compagnie française comme Air France ou d'autres disent on va nous taxer et nous pendant ce temps Emirates qui paye son pétrole que dalle et qui est chez lui sans taxes, etc. Eh ben, il va nous bouffer la gêne sur le dos.
Ça, on rappelle qu'à peu près, si vous voulez, dans le volume, dans le chiffre d'affaires, ou dans les dépenses, 30% à peu près du carburant, c'est ce que ça coûte à une compagnie. Enfin, 30%
du... Alors, sur une low cost, c'est plus que ça. Plus parce que ça. Parce qu'ils ont réduit, leurs frais par ailleurs.
Oui, c'en a, oui.
Et il est vrai que ça peut choquer de
faire... Ils ont des salariés pauvres, ils ont inventé un autre concept. Donc
oui, absolument. Et puis, le concept de dire on paye moins cher en avion qu'en train, c'est effectivement une anomalie. Donc maintenant, comment on peut essayer d'optimiser tout ça? C'est s'il doit y avoir une taxe sur le kérosène en Europe, il faut prendre garde à ne pas se faire à créer plutôt une concurrence déloyale avec les autres compagnies qui vont acheter le pétrole ailleurs, là où ils payent pas de taxes, ils vont remplir leur soute à essence, ils vont devenir plus lourds et en plus, étant plus lourds, consommer plus. Donc, il va falloir trouver un système avec beaucoup d'ingéniosité pour ne pas créer de la concurrence déloyale. Et ça, c'est pas facile. C'est à nouveau nos nouveaux députés européens, il va falloir réfléchir à la question.
Alors, Audrey Pulvar, cette semaine, dans Nouvel Observateur, donc, a écrit le syndrome terminal en parlant de ce nouveau terminal 4 à Roissy, Charles de Gaulle, qui prévoit d'accueillir en 2037 pas loin de 40 millions de passagers supplémentaires. Et puis elle pointe une chose, c'est-à-dire que d'un côté, on essaie de faire la promotion dans les médias d'une taxe européenne sur le kérosène et on rejette en commission parlementaire le principe d'une contribution climat du secteur aérien. Voilà. Et là, ça montre bien, je dirais, les incohérences que l'on a tous, peut-être les uns et les autres. Mais voilà, alors Lorelai Limousin, s'il vous plaît, sur ce que souhaitiez-vous dire?
Oui, on a suivi en effet les débats à l'Assemblée en commission sur cette contribution climat qu'on a proposée en fait avec 4 niveaux de 20 euros à 100 euros selon la distance et la classe dans laquelle vous voyagez au niveau de votre vol. On s'est inspiré notamment du système de la taxe Chirac ou taxe de solidarité, mais aussi de la taxe qui existe sur les billets d'avion au Royaume-Uni et qui permet de lever plus de 3 milliards d'euros, donc qui permet aussi d'investir qui pourrait permettre d'investir dans d'autres solutions comme le train et de rendre le train moins cher. Et ce débat va revenir à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, parce que là, il y a ces derniers jours des amendements qui ont été redéposés pour mettre en place cette contribution climat sur les billets d'avion. Et c'est vrai que, c'est ce que je disais, en fait, il y a des pays qui sont passés à l'action, notamment la Norvège, le Japon, le Brésil, l'Inde taxe le kérosène. Des pays ont mis en place des taxes sur les billets d'avion pour le climat. C'est le cas de la Suède, notamment il y a un an, et on voit qu'il y a déjà un début de baisse du trafic dans les principaux aéroports, qui est aussi lié à d'autres facteurs. Vous avez parlé du phénomène de honte de prendre l'avion. C'est vrai que quand on sait que l'avion est 14 à 40, voire 50 fois plus émetteur de CO2 que le train, il y a une vraie logique à supprimer ces anomalies fiscales et à réinvestir les recettes dans les solutions de la transition écologique, comme le train. Donc là, il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale. On espère qu'il sera concluant. On espère que c'est comme ça qu'on arrivera à emmener justement les partenaires européens vers un système de taxation plus intelligent. La Commission européenne il y a une étude qui a fuité de la Commission européenne il y a 2 ou 3 semaines dans Le Monde, qui montrait bien les bénéfices à retirer d'une taxation soit des billets d'avion, soit du kérosène. Ça permet une réduction de l'ordre de
10%. Alors, Lorelai, pardonnez-moi, parce que ça, on l'entend bien, on voit bien effectivement cet aspect fiscal. Je voudrais quand même, avec Gérard Velzer, aussi parler quand même des autres nuisances. On a bien sûr les nuisances sonores. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus avec les avions, ils habitent à côté. Ça, on voit très très bien l'affaire. Et ça tape, comme on dit, malheureusement, sur le système aujourd'hui. On a donc ce réchauffement climatique. Puis il y a quand même toutes les autres pollutions, entre les hydrocarbures qui sont à brûler, les NOx, les particules fines. Enfin, est-ce qu'on peut faire des progrès là-dessus ?
Oui, on fait des progrès, heureusement. Simplement, il faut regarder la part du transport globalement. On n'a pas parlé encore du trafic maritime. En tonnes kilomètres ou en tonnes milliards transportés, on va passer de 110 à 330 000 milliards de tonnes transportées. C'est considérable. Aujourd'hui, le transport maritime qui transporte 95% de nos matières consomme déjà ou émet déjà fuel lourd. Fuel lourd, ça veut dire derrière du soufre et ça veut dire des maladies. On en crève de ça. Donc, il faut mettre tout sur la table, tous les transports, les pollueurs, payeurs. D'accord pour l'aviation, mais aussi d'accord pour le transport maritime et tous les autres modes de transport, pollueurs, payeurs. Et moi, je pense que chacun dans son domaine doit faire des efforts. Alors, concernant l'aérien, que je connais un tout petit peu plus, on fait des efforts, mais pour atteindre l'avion électrique, et notamment à hydrogène, parce que c'est ce qui semble être la voie la plus crédible aujourd'hui, on nous promet un avion électrique à l'horizon 2035 pour un court courrier à 70 places, que ce soit Boeing ou Airbus, les gens y travaillent. Maintenant, ça ne résout pas le problème du long courrier, parce que effectivement, avoir un avion électrique sur le long courrier, c'est pas encore
et
demain.
Et puis, ça résout pas forcément, même si la technique, si on a besoin de science et donc son corollaire qu'est la technique, par rapport à l'augmentation du trafic
et
en tout cas, qui est annoncé.
Il y a la pollution globale et la pollution locale. On a parlé du bruit autour des aéroports, ce qui est une vérité. Il y a aussi la pollution atmosphérique. Exemple. Par exemple, quand j'étais commandant de bord, je roulais comme tous les autres avions avec les moteurs, ce qui est une aberration totale. Pourquoi ? Parce que avant d'avoir décollé, rien qu'au roulage, vous roulez au moteur, vous avez déjà dépensé 1000 à 1500 litres. Roissy, seulement Roissy, le roulage des avions, c'est 300 000 tonnes de CO2 par an, c'est l'ensemble du périphérique.
C'est que le roulage, c'est-à-dire que l'avion n'a pas décollé.
C'est que le roulage, c'est le périphérique. Et donc là, ce sont les gens qui sont autour des aéroports qui en sont les premières victimes. Donc, j'ai été un tout petit peu à l'origine du green taxi, c'est-à-dire, j'avais dit à Safran à l'époque, mettez-moi un moteur électrique sur mes roues, c'est trop con, on va pas continuer comme ça. Ils ont fini par le faire. Et aujourd'hui, il reste le long courrier. Le long courrier, c'est pas valable de rajouter 400 kilos à peu près de moteur électrique sur les roues, parce que ce surpoids, vous le dépensez en surconsommation. Et du coup, écologiquement, économiquement, c'est pas rentable. Donc, je leur dis, mettez des tracteurs électriques, amenez au moins les avions. Ça va soulager, c'est pas grand-chose, ça fait 4% de l'ensemble d'un vol. Mais quand même, c'est comme ça, petit à petit, on arrive à quand même à des progrès. Et puis, que ce soit en termes de bruit ou en termes de pollution, c'est pareil.
Alors là, Limousin, souhaitiez réagir ?
Oui, mais c'est vrai que sur ce côté aussi, inégalité environnementale, c'est-à-dire que généralement, ce sont les personnes les moins aisées qui souffrent aussi des pollutions liées au transport routier, au transport aérien. Et dans le transport aérien, ce qui est particulièrement marquant, c'est que c'est quand même un mode de transport de loisirs ou utilisé en grande partie par les professionnels, par les entreprises. Et donc, il y a toute une partie de la population qui ne l'utilise pas et qui subit aussi doublement cette injustice fiscale, alors que les recettes pourraient, si je reprends l'exemple de la société, pourraient être utilisées aussi pour investir dans des solutions du transport du quotidien pour tous. Et après, je voulais juste revenir à la question essentielle que vous avez posée. Est-ce vraiment conciliable d'avoir de telles prévisions de trafic avec les engagements climatiques ? La réponse est non, parce que quand on entend qu'en 2035, il y aura peut-être un avion électrique pour des courts trajets, il faut à tout prix limiter le trafic aérien, notamment dans les régions du monde où il est le plus développé, et c'est le cas de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Donc on a une vraie responsabilité
et de l'Asie le secteur aussi de asiatique, ça va être plus d'un tiers aussi du trafic.
Moi, je voudrais poser juste une question. Comment interdire les pays émergents, l'Afrique notamment, et l'Asie, leur interdire tout d'un coup, disait on a fait des conneries, nous, les gens du Nord, bon maintenant, vous du Sud, vous n'avez plus le droit. Je vois pas comment on va faire si on n'a pas un accord international. Et avec Trump, c'est mal barré. Mm-hmm. Alors je ne sais pas, je sais pas quelle est la solution, parce que l'écologie punitive en disant on est en France et on ne va plus voyager, c'est pas accepté. On l'a bien vu, ça ne marchera pas. Donc il faut trouver une solution globale, et cette solution globale, elle doit satisfaire un grand nombre. Et alors pollueur-payeur, ça veut dire les taxes d'atterrissage, elles devraient être adaptées à l'utilisation que font les compagnies aériennes. Il y a, par exemple, si on remplissait un Airbus A380 à 840 passagers parce qu'il peut les prendre, la consommation serait 2,5 litres au 100 par passager. Il devrait donc payer aux passagers moins cher qu'un avion plus petit et qui est à moitié rempli.
Juste un petit mot, Lorelai.
Non, mais c'est vrai que, enfin, là, aujourd'hui, l'Amérique latine et l'Afrique, par exemple, représentent 10% du trafic mondial. Donc, par rapport à la population qu'elles représentent dans le monde et par rapport à la population européenne ou américaine du Nord, nous sommes minoritaires, c'est disproportionné. Donc, voilà, la recherche d'un accord global, mondial, on est évidemment pour, mais ça ne doit pas nous dispenser d'agir sans plus attendre au niveau européen, parce qu'en fait, notre trafic continue d'augmenter alors même que nous avons des solutions
on est au cœur, Lorelai Limousin, donc je rappelle votre travail formidable avec Action Climat, de nos merveilleuses contradictions que l'on a donc les uns et les autres. Peut-être qu'effectivement en vol intérieur on peut peut-être dans certains cas s'en passer, bon ça c'est un avis personnel. Grand merci, on pourrait développer tout cela, mais là on a un peu bousculé l'émission. Gérard Felzer, il y a votre ouvrage, donc si tu peux vas-y, vraiment ça c'est votre histoire. Juste un tout petit mot rapide, très rapide mais vraiment très simple.
Bien, voilà. Si je dois parler de mon bouquin, on en reverra une autre fois, mais c'est de l'espoir. Voilà, il faut croire en progrès et puis aussi à nos façons de vivre. Il faut changer nos paradigmes, tout simplement. La technique ne résout pas tout. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais.
Mais absolument, et qui prenait pas l'avion. Merci à Nicolas Cazot, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet qui a réalisé l'émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour. Semaine prochaine, je vous emmène sur la louche avec Gustave Courbet et son rapport à la nature. Le Twitter, c'est chez Sou. Je vous retrouverai d'ailleurs lundi à 18h30 à Montpellier, à l'Institut Botanique de l'Université de Montpellier, avec une femme qui s'appelle Anne Charmentier du CNRS. Et on parlera de mésanges et de réchauffement climatique, non, entre autres choses. Je vous souhaite un excellent week-end.